Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et variés, animés par des animateurs qui le sont tout autant. Au gré des émissions et du temps, ils vous parleront de droit, de finance, de vin, de cinéma, de bien-être au travail et de bien d'autres choses encore. On les écoute.
Et à tous, heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour ces chroniques de Maître Marie. Je suis Marie Lebert, avocate à Toulouse. Pas de bruitage ni de jeu cette semaine, mais par contre, je serais ravie de savoir si cette formule des 4 à la suite qu'on a tentée la semaine dernière vous a plu, ou si d'ailleurs vous avez des attentes particulières, des sujets que vous aimeriez voir traités dans ces chroniques. Avant tout, elles sont faites pour vous, chers auditeurs, alors autant satisfaire vos attentes. Pour cela, n'hésitez pas à commenter le post relatif au patchwork chaque semaine sur la page Facebook d'Esprit Occitanie ou commenter directement sous les podcasts des émissions. Et je me ferai un plaisir de réaliser ces chroniques sur un sujet qui vous intéresse en particulier. Alors en attendant cette semaine, comme en ce moment on est à fond sur les réformes, les projets de réformes, du reste c'est une mode très française, hein, on aime bien chambouler sur tout ce qui marche bien, on a sur le feu quelques projets de réformes et notamment une sur les baux d'habitation portée par le député Mickaël Nogal, député LAREM de la Haute-Garonne. C'est surtout pour ça d'ailleurs que je m'y suis intéressée. Alors qu'apporterait-elle cette nouvelle loi ? Eh bien, le projet de loi aurait pour but d'améliorer et de pacifier les relations propriétaires-locataires. Améliorer les relations propriétaires-locataires. C'est drôle, ça. Ça me rappelle quelque chose. Ah bah oui, l'intitulé de la loi du 6 juillet 89, qui est le pilier en la matière et qui est une loi tendant à améliorer les rapports locatifs. On n'est pas avec du neuf avec du vieux, mais enfin bon, pas loin. Alors, cette loi de 89, c'est le régime de base, le pilier des baux d'habitation. On l'évoque encore très régulièrement aujourd'hui. C'est celle qui rappelle que le droit au logement est un droit fondamental et elle pose des dispositions d'ordre public, c'est-à-dire que personne ne peut écarter et que le juge peut même relever d'office. Elle fixe les conditions de rédaction et de signature du bail, la réalisation de l'état des lieux, elle interdit certaines clauses, elle fixe les conditions de résiliation avec la fameuse clause résolutoire, la durée du bail, les conditions du congé pour vente. Vous en avez sûrement vu des reproductions d'articles au dos, par exemple, de vos baux d'habitation si vous êtes locataire et que au dos de votre contrat, vous avez les conditions générales écrites en tout petit. Bah, très souvent, il y a des reproductions de la loi de 89. Alors, cette loi pilier, elle a déjà été modifiée et réformée par la loi Allure, d'abord. Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, Allure, on aime les acronymes, on assume. Ou encore loi dite Duflot 2, du 24 mars 2014. Les principaux changements apportés par la loi Allure, c'est quoi ? Ben, c'était d'abord, le premier truc, c'était l'encadrement des loyers. Voilà, il fallait que le loyer hors charge fixé dans le contrat pour les nouvelles locations ou les relocations ne puisse pas excéder le loyer médian de référence majoré. Donc en gros, hein, on faisait une moyenne des loyers dans la zone locative et on ne pouvait pas dépasser ce loyer médian. L'autre nouveauté introduite par la loi Allure, c'était la possibilité pour le locataire de bénéficier d'une réduction de 3 mois à 1 mois de son délai de préavis pour quitter le logement. Et c'était notamment le cas dans les villes, ce qu'on appelait en zone tendue, donc avec une grosse pression démographique et immobilière. Alors, jusque au 8 août 2015, cette nouvelle règle ne concernait que les contrats de bail signés à compter du 27 mars 2014. Les baux signés avant cette date n'étaient pas concernés. Mais, La loi Macron, d'août 2015, a supprimé cette distinction. Désormais, la réduction du délai de préavis est applicable pour tous les logements situés en zone tendue, quelle que soit la signature du contrat de location. C'est bien connu, hein. Manu, il y va à la hache, il universalise, il fait pas dans le détail, et pas que pour les baux d'habitation. Bref, revenons à nos baux. Alors, la loi Allure, elle prévoyait aussi l'instauration d'un modèle de contrat de location type et une notice d'information obligatoire à remettre au locataire. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on vous dit notice d'information obligatoire. Par contre, document libre, pas de mention spéciale, pas de modèle, c'est obligatoire, mais débrouillez-vous. Et puis, depuis la loi Allure, les bailleurs devaient aussi fournir deux documents supplémentaires aux locataires. C'était les fameux diagnostics immobiliers. Alors là, sur l'état des installations de gaz et d'électricité dans le logement alloué. Ça concernait les installations datant de plus de 15 ans. Et ça est rentré en application, sauf exception, pour les contrats signés à compter du 1er janvier 2018. Ça, c'est ce qu'elle a instauré, cette loi Allure. Mais elle prévoyait aussi de créer une garantie universelle des loyers, la GUL, c'est très élégant, pour l'ensemble du parc privé et des bailleurs. Et son financement devait résulter du prélèvement d'un pourcentage du loyer, de l'ordre de 1 ou 2% de son montant, payé de façon égale par le propriétaire et le locataire. Et normalement, ça devait remplacer le cautionnement au 1er janvier 2016. Mais finalement, cette fameuse GUL, elle a été abandonnée et remplacée par un dispositif financé par Action Logement, par exemple 1% logement, et la garantie contre les loyers impayés destinés aux salariés jeunes ou précaires dont les revenus ne dépassaient pas un certain plafond. Mais vous allez voir que sur ce point, on va voir que la politique est un éternel chantier en recommencement parce que on va en reparler un peu plus tard dans la chronique de cette GUL. La loi de 89, elle prévoit également un délai maximal de 2 mois à compter de la remise des clés pour que le propriétaire restitue le dépôt de garantie versé par le locataire. La loi Allure, elle prévoit de réduire ce délai à 1 mois dès lors que l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. Alors ça, c'est beau sur le papier, mais autant vous dire que dans la pratique, on reste quand même pas mal à 2 mois. Et à défaut de restitution dans les délais légaux, le texte de loi dit que le propriétaire pourrait subir une pénalité de 10% du montant du loyer mensuel hors charge pour chaque mois de retard commencé. Alors j'insiste sur le « pourrait », parce que là ça va être la minute coup de gueule, parce que les plateformes de droit à 2 balles sur le net qui font du quasi-exercice illégal de mon métier vous diront que si, c'est dans la loi, donc c'est automatique. Si dans la loi il y a écrit « pourrait », c'est qu'en droit on fait attention aux mots et que « pourrait » étant un verbe au conditionnel, ce n'est pas automatique. Comme quoi un avocat ça peut servir. Donc le propriétaire pourrait, mais il n'y a pas d'automatisme en la matière. Et puis enfin, la loi Allure a prolongé la trêve hivernale. La trêve hivernale, vous savez, c'est cette période pendant laquelle les locataires faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ne peuvent pas être expulsés d'un logement. Avant, elle était fixée du 1er novembre au 15 mars. Et par la loi Allure de 2014, elle a été prolongée jusqu'au 31 mars. Donc vous vous dites, on avait le régime de base de 89, on a la loi Allure de 2014 qui a déjà commencé à nous corriger des petits trucs. Maintenant, on arrête. Non! Parce qu'une fois tout ça posé, 4 ans plus tard, on s'est dit, le législateur et surtout le gouvernement s'est dit non, on reprend, ça suffit pas. Et donc voilà la loi Élan, après Allure, voilà l'élan, du 23 novembre 2018 qui porte évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. E-L-A-N. Pourquoi on mixe le logement et le numérique, on sait pas, mais on met tout dedans, on check et ça passe. Le truc, c'est que la loi Allure de 2014 avait instauré donc ce fameux dispositif d'encadrement des loyers dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais en réalité, la mise en pratique a été très compliquée. Il y a seulement 2 communes, Paris et Lille, qui l'ont mise en œuvre. Et finalement, ce qu'on dit moins souvent, c'est que le dispositif en lui-même a été annulé par les tribunaux administratifs dans ces 2 villes à la fin de l'année 2017. Alors, la loi Élan, elle conserve les grands principes mais sur l'encadrement des loyers, mais qui vont en fait rester optionnels et qui ne sont pas réellement mis en application. La loi Élan, elle crée aussi un nouveau type de bail d'habitation, le bail mobilité, qui vise notamment les locataires en mobilité professionnelle. Ça concerne la location des logements meublés sur une durée de 1 à 10 mois, avec des modalités, de conclusion et de résiliation assez souples. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ferait un petit peu beaucoup, mais retenez que on a ce nouveau bail mobilité, plus souple qu'un bail d'habitation classique. L'un des objectifs affichés par la réforme portée par la loi Élan, c'est aussi de simplifier les règles d'urbanisme pour accélérer les procédures de construction de logements. Et pour ça, des mesures sont prises pour prévenir les recours abusifs exercés contre les permis de construire, avec renforcement des sanctions en cas d'abus, et puis un délai de jugement sur les recours contre les permis qui ne peut pas dépasser 10 mois. Je ne sais pas si on s'est demandé si en parallèle de ça, on mettait à disposition les moyens nécessaires pour la justice, mais voilà, on a un délai couperet à 10 mois. Et puis, ce que prévoit aussi la loi Elan, c'est que d'ici 2022, les demandes de permis de construire devraient pouvoir se faire en ligne dans les communes dont la population dépasse 3500 habitants. Là encore, on le sait avec Manu, on accélère, on simplifie, on fait en ligne, on fait tout avec des plateformes en ligne. Et on espère que quand on clique, tout était correct, parce que sinon, on ne pense pas forcément aux conséquences. Et puis, cette loi Elan, eh bien, elle visait également à favoriser la transformation des bureaux vides en logements, avec des normes pour les convertir ainsi qui ont été assouplies, et des dispositifs mis en œuvre pour inciter les propriétaires à rénover leurs bureaux. Ça aussi, à voir si c'était l'esprit du texte, c'était les dispositions de la loi, mais est-ce que dans la pratique ça a été fait ? Je n'en sais rien. Et enfin, une disposition de cette loi Elan prévoyait de faciliter l'expulsion des squatteurs, ou autrement dit, occupants sans droit ni titre, qui ne sont plus protégés par la trêve hivernale et qui ne bénéficient plus du délai de 2 mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion effective. Alors ça, petit rappel de la loi de 89, quand vous ne payez pas votre loyer, il y a un commandement de payer et de quitter les lieux qui vous est signifié, et on laisse passer un délai de 2 mois pour vous laisser le temps de vous retourner, et soit de partir, soit d'apurer votre dette. Eh bien, ce délai de 2 mois, il n'existe plus pour les squatteurs avec la loi Elan. Et alors, en matière de caution, ça c'est un petit point qui, pour moi, pose difficulté. Normalement, pareil, loi de 89, eh bien, en matière de caution, vous deviez reproduire certaines mentions légales, et notamment ce qu'on appelait la mention manuscrite, pour matérialiser votre engagement, et qui faisait que vous recopiez effectivement tout ce que sont les obligations de la caution et à quoi elle s'engage, notamment en cas de non-paiement du loyer par le propriétaire. Eh bien, la loi Elan supprime cette obligation et désormais la mention manuscrite de l'acte de caution n'est plus obligatoire. Seule la signature permet de valider juridiquement l'engagement de la personne qui se porte caution. Alors ça, à mon sens, c'était pas la meilleure des idées, parce qu'effectivement, cette mention manuscrite, si vous vous êtes déjà porté caution, voilà, pour vos enfants, pour un ami, pour un membre de votre famille, elle est très longue, cette mention manuscrite, elle fait plus d'une demi-page, elle est extrêmement fastidieuse à recopier, mais l'avantage pour celui qui l'a recopiée, c'était de bien comprendre à quoi il s'engageait, parce que comme il l'avait recopiée, il le gardait en mémoire. Là, la mention est déjà apposée, vous signez en bas de la page, c'est limite si on vous la fait relire, bon, pour la garantie, c'est beaucoup moins sûr. Alors on a vu donc, base, loi de 89, première réforme, loi Allure 2014, deuxième réforme, loi Allure 2018. On aurait pu s'arrêter là, mais non, parce que donc maintenant, on a le projet de loi Nogal. Alors, en reprenant les dispositions que je vous ai énoncées, vous avez peut-être noté que finalement, la loi de 89 était une loi protectrice du locataire ou de l'occupant. La loi Allure aussi. La loi Elan, finalement, déjà beaucoup moins par certains aspects et sur certains points de la relation contractuelle. Et la loi Nogal, alors ? Eh bien, si on lit le projet de loi et les communications autour du projet de loi, cette loi viserait à améliorer les relations propriétaires-locataires, je voulais dire à les pacifier. Bon. La mesure phare des 37 mesures avancées concerne la garantie des loyers impayés. Ce que M. Nogal préconise, c'est d'en confier la responsabilité aux professionnels pendant toute la durée du bail, dans le cadre d'un nouveau type de mandat de gestion locative obligatoire. Et en fait, on consignerait le dépôt de garantie auprès d'un organisme tiers. Et ça, selon le député, c'est le premier motif de litige entre le locataire et son bailleur, la restitution du dépôt de garantie. Sauf que, à l'énoncé du projet de loi, ça a aussi été le premier point de litige entre M. Nogal et les professionnels de l'immobilier, parce qu'effectivement, lorsque vous confiez votre dépôt de garantie à votre propriétaire, dont le bien est géré par une agence, eh bien l'agence encaisse ce dépôt de garantie. Et là, effectivement, les agences seraient privées de cet encaissement. Ça pourrait également jouer sur leurs honoraires. Et donc, eh bien, une nouvelle fois, il va falloir faire œuvre de discussion et de concertation, à mon avis, si on veut que cette loi ne reçoive pas une opposition massive des professionnels de l'immobilier. Alors, ce que souligne M. Nogal, c'est que par crainte de se voir privés du retour de leur dépôt de garantie à la sortie de la location, donc les locataires font le choix de plus en plus fréquemment de ne pas payer le dernier mois de loyer, en privant les propriétaires de toute garantie, en se disant comme ça, s'il y a une difficulté, au moins, nous, on n'aura pas de mal à récupérer notre dépôt de garantie parce qu'on n'a pas payé le dernier mois de loyer, donc ça se compense. Alors, je rappelle quand même que, dans l'absolu, ça ne se compense pas. Hein, le dépôt de garantie, c'est un dépôt de garantie. Le loyer, c'est fait pour payer le loyer, le droit d'habiter dans le bien. Les deux n'ont pas le même objet juridique, donc si on veut être vraiment correct, on ne joue pas au petit malin. Et donc, on ne se dit pas, tiens, mon dernier doigt, loi, mince, moi, deux loyers, je vais y arriver. Non, je ne vais pas l'absorber avec le dépôt de garantie. Alors là, M. Nogal nous dit, mais moi, de toute façon, comme ça, c'est l'inquiétude des propriétaires, des locataires. Moi, je vais prévoir que tout locataire devra confier son dépôt de garantie à un professionnel de l'immobilier qui consignera les fonds et qui les restituera de toute façon à la fin du bail sur la base d'un accord entre propriétaire et locataire. Alors, mon œil de juriste, là, il voit là déjà le premier point de critique. Quel accord ? Parce que, à l'heure actuelle, déjà, si l'état des lieux de sortie ne pose pas de difficultés, si le bien est restitué correctement, le dépôt de garantie, il est restitué de toute façon dans les deux mois. On ne peut pas non plus décemment prévoir un remboursement automatique sous peine de priver le dépôt de garantie de son objet. Donc, moi, je doute fort de toute façon en cas de dégradation du bien ou éventuellement, on peut imaginer, de propriétaire de mauvaise foi. J'en sais rien, je ne prends pas parti. Mais on se doute bien que cet accord, il ne va pas être plus facile à obtenir dans le nouveau cadre légal que dans l'actuel. Donc, je vois pas très bien en quoi, finalement, la consignation des fonds auprès d'un tiers et puis avec restitution sur demande sur la base d'un accord, ça nous révolutionne vraiment le droit locatif. Donc ça, déjà, c'est le premier point. La deuxième mesure phare annoncée, ce serait mettre fin aux abus dans la sélection des locataires en autorisant le recours à un seul garant. Puisque aujourd'hui, bah, vous le savez, parfois, vous avez des propriétaires, notamment dans ce qu'on appelle les zones tendues, donc dans les grandes villes, qui vont demander un garant, deux garants, trois garants, quatre garants. Bon, là, ça serait encadré par les textes et on ne pourrait pas demander plus d'un garant personnel au locataire. Ça, à la limite, ça peut me sembler intéressant, puisqu'effectivement, dans les villes à grosse pression démographique et à grosse pression immobilière, bien, vous avez, c'est vrai, parfois, des propriétaires qui en profitent pour demander nombre de garants. Alors, ce que je peux comprendre dans le sens où ils veulent se garantir, mais c'est vrai que ça peut poser problème et ça peut créer une vraie difficulté pour les locataires pour pouvoir trouver un logement dont ils ont besoin pour pouvoir s'installer, puis parfois proche de leur travail ou dans le cadre d'une mutation. Alors, la réflexion du projet de loi, c'est aussi de nous dire, oui, mais de toute façon, cette caution personne physique, c'est le système de garantie le moins fiable juridiquement et le plus injuste socialement, donc il faudrait se tourner vers d'autres systèmes et de nouvelles solutions. Et c'est là que je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on ne voit pas ressortir la fameuse GUL, la garantie universelle des loyers, qui a été imaginée par la loi Allure pour l'ensemble du parc privé et des bailleurs, et qui viendrait peut-être eh bien, se substituer à ce fameux cautionnement par une personne physique, et dont l'idée serait reprise par cette nouvelle loi Nogal. Ça va être à suivre dans le cadre de la rédaction du projet de loi et de sa présentation à l'Assemblée. Puis dernier point et troisième mesure phare portée par le rapport et par le projet de loi, ce serait sécuriser les propriétaires contre d'éventuels impayés et faciliter l'accès au logement des locataires. Alors, qu'est-ce que ça recouvre exactement ? Eh bien, on veut créer un mandat de sécurisation pour inciter ceux qui passent par les plateformes de location touristique à remettre leur logement sur le marché de la location d'habitation. On veut apaiser les relations, je vous laisse apprécier, mieux répondre aux besoins de chacun. Et donc, on prévoit que les propriétaires auront l'assurance de percevoir leur loyer tous les mois, quoi qu'il arrive du côté du locataire. Et ça, ça serait rendu possible grâce à la création d'un nouveau mandat de gestion qui sera proposé par les administrateurs de biens et qui intégrera la prise en charge d'éventuelles dégradations ou des frais de procédure. Là encore, ça demande beaucoup de précision au moment de la rédaction des textes, mais quand on présente comme ça beaucoup de garanties, on a bien compris que nos amis du monde de l'assurance ne doivent pas être très très loin derrière. Alors finalement, la grande nouveauté de ce texte, eh bien, c'est de mettre en avant bien plus les intérêts et les droits des propriétaires, ce qui n'était pas le cas des textes précédents en matière de baux d'habitation, qui avaient plutôt tendance à protéger la partie supposée la plus faible, c'est-à-dire le locataire. Si on me demande mon avis, moi ce que je pense, c'est que le gouvernement actuel verrait sans doute d'un très bon œil que le marché de la location puisse reprendre à plein, puisqu'aujourd'hui, quand vous regardez les études, hein, y a beaucoup de propriétaires qui sont réticents finalement à louer leurs biens par peur de dégradation, par peur de non-paiement des loyers. Donc je pense que le système actuel verrait d'un très bon œil que tout frein soit levé à l'investissement locatif pour préparer les retraites, par exemple. Hein. C'est vrai que bon, si vous comptez davantage sur vos achats et vos investissements locatifs que sur votre retraite, finalement, ça va dans le sens de la gouvernance finances actuelles. Mais à mon sens, il va quand même falloir beaucoup, beaucoup de concertation avec les professionnels de l'immobilier pour que ce projet atteigne son but. Mais ça, on a bien vu que la concertation, parfois, c'est un petit peu compliqué. Alors, affaire à suivre donc sur le projet de loi de Nogal qui, si mes informations sont bonnes, devrait être présenté à l'Assemblée et discuté au mois de mai 2020. Donc, affaire à suivre donc si cette réforme est votée et adoptée. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette chronique. Alors, si vous avez besoin de reprendre tout ça, de reprendre des informations, eh bien, retrouvez-nous ce soir à 23h en rediffusion et demain, mercredi matin, à 10h. Et bien sûr, ensuite, pour le reste de la semaine et du temps, eh bien, dans la bibliothèque de podcast sur www.espritoccitanie.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique et je vous laisse maintenant en compagnie de Monique Marc, notre lectrice occitane, qui va vous amener sur le marché Saint-Cyprien.
Bonjour chers auditeurs, Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Comme vous l'a annoncé Marie, je vous emmène cette semaine au marché Saint-Cyprien pour la suite du roman « Superman ne volera plus » de Gilbert Noguès aux éditions Kern. Ce nouveau chapitre s'intitule « Pickpocket ».
Dans votre dos, sans les courbettes, je fais ma cueillette. Dans votre dos, pour être honnête, je suis pickpocket.
Il n'y a pas que Superman dans notre vie. Je parle de celle que je mène depuis plusieurs jours avec Consuelo et tout son entourage, chiens, chats et camarades libertaires. Hier, nous avons rendu visite à Chaudron le Malfaisant. Je bouillais d'impatience de le retrouver. J'avoue que j'ai été un peu déçue de ne pas tout de suite trouver l'homme et de lui faire part de ma profonde inimitié et de la colère qui m'habite depuis que je l'ai revu et entendu l'autre soir. Mais il ne perd rien pour attendre. Alors, parce qu'il nous faut bien vivre et que l'argent ne coule pas aussi facilement dans nos poches que la Garonne dans son lit, nous nous sommes levés ce matin avec la ferme détermination de remplir, un tant soit peu, le réfrigérateur désertifié par Superman et par deux yaourts partagés à trois. Voilà deux jours que nous avalons des nouilles à l'eau. Basta! Ce matin, très tôt, trop tôt si l'on se réfère à la fatigue due à notre balade sur les traces de Chaudron, nous avons pris un grand panier d'osier, enfourné l'accordéon et disposé Spartacus dans sa guérite sur le triporteur. Le marché Saint-Cyprien est à quelques tours de roue de la rue Champêtre et même en pédalant lentement, il ne nous a guère fallu plus de 6 minutes 45 secondes pour y arriver. J'aime aussi la précision. Nous avions chacun notre mission. Consuelo, zinzin devant ses seins, était chargé de pousser la chansonnette. Spartacus, dans un premier temps, devait alpaguer l'auditoire par un aboiement tintamarresque. Il s'est acquitté de cette tâche en toute simplicité, puis devait assumer la collecte des fonds. Pour ma part, je devais quémander auprès des marchands toutes sortes de légumes impropres à la vente, mais propres à assouvir nos petites faims. Le premier primeur que j'avais sollicité n'avait rien pu m'offrir d'autre qu'une mine patibulaire et un borgmorigme sonore qui m'avait laissé circonspect. J'avais l'habitude de faire mon marché, façon de parler, au cristal, celui qui se trouve sur les allées près de la statue de Jeanne d'Arc. Bien sûr, parfois j'avais eu maille à partir avec une paire de punks à chien ou une mamie acariâtre pour disputer quelques tomates proches du coulis ou de pommes, golden, granny smith ou clocharde, déjà compotées, mais je n'avais jamais rencontré un rejet aussi manifeste. Délaissant l'aboyeur, j'avais fini par trouver un chou-fleur qui avait encore bonne allure. Quelques poireaux au tronc aussi large et dur qu'un manche de pioche, une branche de céleri défraîchie et deux navets de Cathy. Ça flairait déjà la bonne soupe de légumes. Me restait plus que quelques carottes et patates à dénicher. Une mémé octogénaire, toute rabougrie et frigorifiée sur son siège pliant, m'avait offert trois œufs et une citrouille qui devait avoisiner, approximativement, les 2,357 kg. J'avais renoncé à la mettre dans le panier et je la tenais sous le bras. Autour de Consuelo, une foule composée de trois grands-mères, emmitouflées dans leurs manteaux de laine et encapuchonnées sous un fichu de soie pour deux d'entre elles et de coton pour la dernière, et d'un couple de bobos, je sais les reconnaître, lui, manteau long et noir, de belle facture et donc cher, chapeau de feutre sur la tête, elle, lunettes de soleil, malgré l'absence de ce dernier. Monsieur Bobo fredonnait la chanson que Consuelo coqueriquait. Un coq aimait une pendule, tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût. Nougaro, ça marche toujours bien, m'avait précisé la Zingara. Tu vas voir, Toulousain un jour, Toulousain toujours. Et je te dis pas quand j'attaquerai au Toulouse. Et elle avait raison. À l'entame de l'hymne toulousain, qui partage sa célébrité locale avec le Secanto, plusieurs dizaines de personnes se sont agglutinées pour reprendre et glapir en chœur le « Omun Pais Nougaresque ». Spartacus se dit que c'est le bon moment pour faire passer le chapeau. En quelques secondes, piécette, pièce et même un billet de Monsieur Bobo tombent dans l'escarcelle. Et c'est là que je l'aperçois. Sa barbe est toujours aussi bien taillée. Sa tenue est toujours aussi bien mise. Je suis surtout surpris par son regard détaché de ma chanteuse de rue préférée. Hipster, vous aussi vous l'avez reconnu, se faufile insidieusement entre les badauds enchantés et chanteurs. Quand il guigne le sol, ce n'est pas pour inspecter si ses Fred Perry vont écraser une courgette ou glisser sur une banane. Non, ce qui l'épluche, c'est le contenu des paniers. Je vous l'ai déjà dit, je suis observateur, curieux, fouineur, fouille-merde aussi, et pour l'instant, plus fin limier que Spartacus, trop occupé à solliciter les donateurs. Madame Bobo a posé au sol un large cabas rebondi. Outre quelques légumes qui dépassent copieusement, je devine les emballages d'un charcutier, une conserve de cassoulet ou de lentilles, j'ai une hésitation, et deux bouteilles de vin rouge. Là, je suis sûre. Hipster a vu la même chose que moi. Non, c'est pas possible. Pas lui. Pas mon banquier Godeluro et amoureux clandestin de la vendeuse des nougats. Je reste sans voix. Je voudrais hurler « Attention, madame, il vous !» L'avenue vers l'école, mon cartable est bourré de coups de poing. Qu'auriez-vous fait à ma place? Laissez faire? Laissez dépecer la bourgeoise de ses emplettes? Ben non, pas moi. Et je fonce sur l'énergumène au moment où il s'empare du panier. Cabas dans une main, citrouille en guise de gourdin dans l'autre, en quatre enjambées, dont deux de ma guibole défavorisée, je me propulse sur Hipster. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Et je cogne, je tambourine, je tamponne, je pilonne. Bref, je castagne. Sous les yeux consternés des gobe-mouches, j'esclaffe la citrouille sur le crâne gominé de Hipster. Sa barbe bien léchée se barbouille d'un fluide orangé et visqueux. Je constate que le cadeau de la petite mémé était fort avancé question mûrissement. Jugeant enfin que ma victime avait eu son content d'oignon, oui, je parodie Brassens, qu'un large cercle s'est formé autour de nous deux, que tout l'auditoire n'a Dieu que pour cette algarade, que Consuelo s'époumonne toute seule, je désigne d'un index désignateur le détrousseur en me demandant si des gendarmes mal inspirés viendront tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Il allait prendre le panier de cette dame. Et mon doigt passe du coq à l'âne, en fait du scélérat à la pimbèche. 53 paires d'yeux délaissent le félon, découvre une cocotte pantoise à la bouche en cul de poule, m'envisage un instant avec les restes d'une courge flasque entre les mains et repose sur le gisant. Ô Toulouse, hurle Consuelo, bien solitaire. Ô Toulouse, reprend la foule en m'applaudissant. Hipster profite de ce moment de liesse générale pour prendre la poudre d'escampette, non sans voir sa course, accompagnée de quelques coups de pied dans le tafanari, judicieusement ajusté. Spartacus, qui veut être de la fête, roule vers l'escroc et croque ses Fred Perry. Pour les mollets, le basset artésien n'est pas à la hauteur. Congratulé lui aussi par la foule enthousiaste, l'animal hausse la tête, frissonne de la queue, reprend le chapeau et se pose au pied de la chanteuse qui délaisse le troubadour toulousain pour paraphraser le croquenote sétois à moustache en tablier de sapeur. Au marché Gaillard de Saint-Cypre, à propos de bottes d'oignon. Voilà, chers auditeurs, vous pouvez retrouver comme d'habitude cette émission ce soir à 23h et demain matin à 10h ou consulter toutes les bibliothèques de podcasts sur www.espritoccitanie.fr. Je vous laisse maintenant en compagnie de Claire Britz pour sa rubrique Happy Work. À bientôt, au revoir.
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur Esprit Occitanie pour cette nouvelle rubrique Happy Work, où je vous propose de partager avec vous mon expérience des bonnes pratiques en entreprise. Je ne vais pas vous parler des bonnes pratiques traditionnelles, techniques, mais plutôt de celles qui vont donner le sourire aux salariés, rendre leur quotidien plus agréable, bref, leur permettre d'être plus happy. Alors, pour cette première chronique sur cette antenne, je vais dès aujourd'hui aborder une question que beaucoup se posent quand on en parle. Le bien-être au travail, c'est de l'info ou de l'intox? Tout d'abord, pourquoi cet engouement à vouloir à tout prix rendre les salariés heureux? Eh bien, parce que l'entreprise a une ambition qui n'a jamais varié dans le temps, c'est-à-dire, bien évidemment, être rentable et gagner de l'argent. Or, il se trouve que des études ont démontré qu'un salarié heureux était 30% plus productif, deux fois moins malade, et que le turnover des employés pouvait diminuer de 65% lorsqu'ils étaient épanouis. En revanche, le mal-être au travail coûte cher, très cher. Et ce coût a justement été chiffré en France à près de 13 000 euros par salarié et par an. Alors, ces 13 000 euros, ils englobent quoi? Tout d'abord, ce que l'on appelle l'absentéisme, c'est-à-dire les accidents du travail, les maladies professionnelles. Ils correspondent aussi aux ruptures de contrat, également au désengagement des salariés, qui prend la forme de démission, de rupture conventionnelle ou de départ pendant la période d'essai. Et justement, il faut bien comprendre que l'accueil d'un nouveau collaborateur, qu'on appelle l'onboarding, mais je vous en reparlerai, représente un gros investissement pour une entreprise. Il y a le coût de l'annonce, d'un cabinet de recrutement éventuellement, de l'intégration, de la formation du nouveau collaborateur. C'est un vrai manque à gagner pour l'entreprise si le salarié part peu de temps après son arrivée. Et bien sûr, c'est un vrai coup au moral pour le salarié lui-même qui doit faire face à un difficile sentiment d'échec. Bref, il vaut mieux éviter. Donc, vous l'avez compris, et les entreprises aussi, elles ont tout à gagner en matière de performance et d'efficacité en favorisant le bien-être de leurs collaborateurs. Mais j'ai envie d'apporter un autre éclairage à ce qui peut être considéré comme un effet de mode. J'ai réellement le sentiment que la société dans son ensemble évolue, ou plus exactement, on retourne à des valeurs fortes, telles que la bienveillance ou le partage, qui, je vous le rappelle, ne sont pas des mots honteux en entreprise. Les prises de conscience en matière d'écologie en sont un exemple très parlant, et les jeunes générations ont des marqueurs très forts sur ces sujets. Si les entreprises veulent les capter, les attirer, elles doivent évoluer, notamment dans leur management ou dans la définition de leurs objectifs. Aujourd'hui, la demande de sens est très forte, surtout pour nos jeunes, et le temps où un salarié devait appliquer une consigne sans comprendre pourquoi il la faisait ou dans quelle stratégie cette consigne s'inscrivait est révolu. Une enquête a d'ailleurs montré que 87% des personnes interrogées reconnaissaient accorder de l'importance à la quête de sens au travail. Cette notion de sens se traduit dans leurs réponses par des notions comme le respect des valeurs, le sentiment d'utilité des missions, de leur mission dans l'entreprise, l'éthique, la compréhension des tâches à accomplir ou la contribution à quelque chose de plus grand que soi. C'est ainsi que c'était marqué dans l'étude. Et pour illustrer cette conception du sens au travail, je vais vous raconter une petite histoire que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire des trois tailleurs de pierre. Alors, il était une fois trois hommes qui taillaient des pierres avec les mêmes outils, au même endroit et au même rythme. Le premier travaillait mécaniquement, et quand on lui demanda ce qu'il était en train de faire, il répondit étonné « Eh ben, je taille une pierre, ça se voit pas ? Non loin de lui, le second effectuait méthodiquement son travail. À la même demande, il expliqua calmement « Je taille une pierre pour construire un mur ». Un peu plus loin, le troisième travaillait sa matière première avec ferveur, respect, délicatesse, comme s'il s'agissait d'un joyau. Et lorsqu'on lui demanda ce qu'il faisait, il répondit avec enthousiasme « Moi, monsieur, je construis une cathédrale ». Vous voyez dans cette histoire comment la fierté pour son travail est un formidable levier de motivation. Comment une entreprise qui développe ses valeurs et surtout qui met en pratique des actions qui correspondent à ses valeurs peut apporter de la joie et de l'épanouissement à ses collaborateurs. Et comme exemple d'action concrète, justement, je peux vous citer la société Mercedes-Benz qui invite les employés à participer en tant qu'observateurs à certains comités de direction afin de comprendre les prises de décision et donner du sens au travail. Pour ma part, j'accompagne ou j'ai accompagné très nombreux managers et je peux vous assurer que les faire travailler sur le sens au travail, le pourquoi on fait les choses et pas seulement le comment il faut les faire, permet vraiment d'obtenir une meilleure coopération entre les équipes, plus de fluidité, plus d'engagement. Donc à la question, le bien-être au travail, c'est de l'info ou de l'intox, vous l'avez compris, je suis totalement convaincue que c'est un sujet porteur, plein d'avenir et qui mérite vraiment d'être expérimenté. Pour savoir comment, eh bien c'est très bientôt dans la rubrique Happy Work, dans le patchwork d'Esprit Occitanie, et tout de suite, si vous le souhaitez, sur le site cbo-conseil.com. Très belle journée à tous!
C'était Patchwork, merci à Hugo qui en a effectué le montage, une émission que vous pourrez réentendre ce soir à 23h, demain matin à 10h. Rendez-vous pour un nouveau Patchwork mardi prochain à 19h.